Vous êtes sur RTL.
8h30 demain, forêt de Brocéliande.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 21 juillet, ça passe ou ça casse. Passe sanitaire obligatoire pour aller au musée, au cinéma, à la piscine. Il faut prendre l'épidémie de vitesse alors que la circulation du virus a bondi de 150% en une semaine. Le Conseil de défense sanitaire s'est réuni ce matin. Y aura-t-il de nouvelles restrictions? Certaines régions n'ont pas attendu. Le port du masque en extérieur redevient obligatoire. Par exemple, en Haute-Garonne, nous irons à Toulouse. On s'y perd dans ces nouvelles règles parfois contradictoires, mais Jean Castex doit faire un peu de pédagogie après 13 heures. Un centre de vaccination victime d'une coupure de courant, un acte de vandalisme lundi dernier à Audincourt dans le Doubs. Un adolescent de 16 ans est le principal suspect. Dans RTL Midi aussi, nous reviendrons longuement sur ce logiciel espion Pegasus qui a peut-être aussi écouté Emmanuel Macron. Nous verrons si chacun d'entre nous est une cible potentielle et comment. Premier bilan des soldes, à une semaine de la fin, on est en dessous de 2019. Les ventes privées et autres braderies ont eu raison de ce rendez-vous. Enfin, nous partirons aux Jeux Olympiques de Tokyo, où le tennisman français Gaël Monfils doit aménager entraînement et lune de miel. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
La chaleur monte.
Oui, de 25 à 36 degrés encore aujourd'hui. 25 à Biarritz, 26 à Langres, 27 à Cherbourg, Lille et Nice, 30 degrés à Paris, Bourges et Lyon, 34 à Toulouse et Cognac, 36 à Nîmes. Alors donc la chaleur, vous l'avez dit, mais également un beau soleil. Petit bémol sur la côte aquitaine, jusqu'au midi Pyrénées, beaucoup de grisailles depuis ce matin, mais ça va se dissiper au fil des heures. Il restera juste quelques plaques localement sur les côtes uniquement cet après-midi, puis quelques nuages vont se former en montagne, lâcher une petite averse sur les Pyrénées, le massif central, voire un coup de tonnerre sur le sud des Alpes et la montagne Corse. Et puis je rappelle qu'il y a toujours quatre départements en vigilance orange crue, les Ardennes, la Marne, l'Aisne et l'Oise.
La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à remettre le masque en extérieur? Alors là, vous êtes à égalité parfaite, 48% de oui et de non. Le débat s'annonce passionnant au 32-10, appelez-nous dès maintenant, on reviendra aussi sur les nouvelles restrictions. Et j'aimerais évoquer avec vous un drame de l'été, les noyades en piscine. Si vous êtes maître nageur ou simplement parent, témoignez, vous aurez la parole entre 13h et 14h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Une toile, une expo et une petite séance de musculation. Si c'est à votre agenda aujourd'hui, préparez vos justificatifs. Vous devez présenter soit une preuve de vaccination, soit un test PCR négatif, soit une preuve que vous avez guéri du Covid. Passe sanitaire obligatoire, sauf pour les 12-17 ans. Les musées, salles de sport et cinéma ont dû s'adapter dans l'urgence. Partons tout de suite au Pâté Weppler, au cinéma Pâté Weppler, place Clichy à Paris, où le pass, c'est pas de la camelote, Sinamir.
Non, c'est le cas de le dire, et il est même indispensable pour profiter depuis ce matin des nouvelles aventures de la bande d'Alexandre Astier.
Les passes sanitaires, s'il vous plaît, et les pièces d'identité valides.
Alors très concrètement, comment ça se passe? Sur le parvis, les agents du cinéma scannent avec leur téléphone votre QR code et vérifient votre identité.
C'est naturel, c'est normal, on fait ça pour qu'on vive bien tous ensemble. Ça fait un mois qu'on a fait une deux doses, donc on est dans les règles.
Je peux y aller, je suis content. Si ça me coûte ça, c'est pas grave.
Attention, un pass sanitaire valide, c'est 2 doses et 7 jours ou 1 dose et 7 jours si vous avez eu le Covid. Sébastien a été le premier à en faire les frais ce matin devant le cinéma.
Ça, faut voir avec l'État. Nous, on applique, vous pouvez annuler votre place 15 minutes après le début de la séance.
Les discussions n'ont rien changé, un peu amer de se faire refouler comme à l'entrée d'une boîte de nuit.
Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, j'ai réservé ma place par Internet. On me dit que mon passe sanitaire n'est pas valide.
Puis pour ceux qui n'ont pas encore de passe sanitaire à jour, il reste évidemment le test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Pas de quoi faire ses besoins dans une fiole, comme on dit, de façon culte dans Kaamelott.
Voilà, c'est pas faux, comme on le dit aussi. Merci, Sina. 18 000 contaminations en 24 heures, une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% en une semaine. Ce n'est plus une vague, c'est une déferlante. D'où l'importance du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. William Galibert, faut-il redouter un tour de vis supplémentaire?
Oui, difficile d'y échapper, mais en fait, Christelle, il est déjà en train d'avoir lieu, ce tour de vis. En Charente-Maritime, vous avez 45 communes touristiques où il faut à nouveau porter le masque dans la rue. Pareil dans le centre historique de Toulouse. On sait aussi que dans les Pyrénées-Orientales, c'est rideau à 23 heures pour les bars et les restaurants. Pour l'instant, on semble se diriger vers une multiplication de ce genre de décisions, mais à l'échelle locale. Et c'était ça le cœur du débat à l'Élysée ce matin, agir seulement dans les endroits où les contaminations dérapent, mais sans nouvelles mesures nationales, surtout pas au moment où le pass sanitaire entre déjà en vigueur.
En tout cas, William, la pédagogie s'impose.
Oui, on peut le dire comme ça. Les centres commerciaux avec ou sans pass sanitaire, les campings sans piscine qui peuvent s'en passer, mais pas les autres. Ah oui. Et le droit d'enlever le masque parfois ou pas, mais oui, mais non. Mais qui a vraiment compris toutes les nouvelles règles? On va voir si Jean Castex lui-même les maîtrise et peut les annoncer clairement, puisqu'il est invité du journal télévisé à 13h.
Et on le suivra juste après 13h. Merci beaucoup William Galibert. On s'attend donc à des mesures territoriales ciblées. Et concernant le port du masque, on assiste en ce moment à un paradoxe. Au moment où Olivier Véran, le ministre de la Santé, disait hier matin sur RTL que les personnes bénéficiant du pass sanitaire pourraient le tomber, certains départements font le chemin à l'envers. Des Pyrénées-Orientales à la Charente-Maritime, les préfets l'ont rétabli en extérieur. C'est aussi le cas à Toulouse, où il va faire chaud derrière les masques avec les 34 degrés attendus aujourd'hui, Patrick Tégéraud.
Ils sont masqués, Liliane et Edmond. Ils viennent de prendre un petit déjeuner, place du Capitole.
C'est très compliqué. Oui, non, c'est plus trop ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Il vaudrait mieux un message clair et net.
Moi, je ne comprends pas qu'on remet le masque ici. Et quand on prend le métro, il est bondé. On est les uns contre les autres. Bon, avec le masque, mais quand même, on est serré.
Sébastien n'a pas mis son masque. Il n'était pas au courant. Il arrive tout juste de la réunion.
Ce qui est un petit peu dommage, on va dire, c'est que ce genre de décisions-là viennent et partent, sont prises et sont remises en question. On aimerait y voir un petit peu plus clair.
Près du carrousel, la jeune Manon a oublié de mettre son masque, elle aussi, parce qu'elle ne s'y retrouve plus.
Oui, complètement confus. Et puis, vu que c'est dans certaines villes et pas d'autres, il suffit qu'on voyage dans... pour d'un jour à l'autre ne plus devoir le porter, donc bon.
Son amie Lola, 19 ans, est une farouche porteuse de masques, même dans les soirées festives de la place Saint-Pierre, comme hier soir.
Tout le monde est collé, tout le monde danse ensemble, même à l'intérieur des bars. Je sais que moi, je suis la seule à le mettre. Et ça m'avait fait trop bizarre, je pensais que c'était obligatoire, et pas du tout, parce qu'il y a contrôle du pass sanitaire, donc... Mais même, moi, je le mets, mais alors qu'ici, on n'est pas collé, on ne croise personne. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve ça hyper mal fait, en fait.
Reportage Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Alors êtes-vous prêt à remettre le masque en extérieur? J'attends vos témoignages au 32-10. Pendant ce temps, le projet de loi prévoyant les nouvelles restrictions du pass sanitaire fait son chemin au Parlement. Déjà 500 amendements avec notamment une souplesse accordée aux adolescents, le report du système pour les 12-17 ans jusqu'à début octobre. Et la vaccination atteint des sommets. 4 300 000 doses écoulées la semaine dernière, dont 1 700 000 premières injections. Alors, y a-t-il un risque de pénurie? Les délais d'attente pour les prises de rendez-vous vont désormais au-delà de 2 semaines à Gatlandais.
Oui, sur Doctolib, ces 7 derniers jours, pour près de la moitié des créneaux réservés, c'était avec un délai d'au moins 2 semaines. C'est normal, hein, car la demande a explosé, vous l'avez dit, depuis l'annonce du pass sanitaire. Pour autant, il n'y a pas de pénurie de doses, loin de là. Dans les 2 prochaines semaines, 215 000 rendez-vous sont encore disponibles. On va en plus recevoir dans les prochains jours une nouvelle livraison de 3 millions de doses Pfizer et Moderna, autant la semaine suivante. Mais c'est vrai qu'il y a quelques tensions localement, notamment dans les zones touristiques. Alors pour y faire face, les agences régionales de santé ont déjà commencé à y envoyer plus de doses. Enfin, quelques conseils si vous cherchez aujourd'hui un créneau. Il n'y a pas que Doctolib. N'oubliez pas que vous pouvez vous vacciner en ville. Contactez donc les médecins généralistes et les pharmacies autour de vous. Ils vont en plus recevoir 800 000 nouvelles doses Moderna là dans les jours qui viennent. Le plus compliqué, c'est pour les ados, les 12-17 ans. Eux ne peuvent se vacciner, on le rappelle, qu'en centre avec du Pfizer. Des créneaux sont rajoutés tous les jours sur Doctolib, alors n'hésitez pas à y retourner régulièrement.
Merci Agathe. Il y a 2 jours, nous vous parlions de cet acte de vandalisme contre un centre de vaccination à Audincourt dans le Doubs, une coupure d'électricité visant les réfrigérateurs. La mairie a même porté plainte. Et finalement, Guillaume Chies, c'est un adolescent qui a été arrêté.
Oui, un jeune homme de 16 ans qui rôdait hier vers 22h autour du centre de vaccination. Sauf que depuis dimanche et la tentative de sabotage, des policiers municipaux sont postés autour du site. Ils reconnaissent la silhouette filmée par les caméras de vidéosurveillance ce week-end et décident de l'interpeller. Ce jeune homme est déjà connu des services de police. Les enquêteurs doivent désormais s'assurer que c'est bien lui qui a débranché les réfrigérateurs et le système de secours dimanche dernier. Pour cela, une comparaison d'empreintes digitales est en cours. Rappelons que dans cette affaire, plus de 3000 doses ont été impactées par la coupure de courant. Les autorités sanitaires doivent déterminer si elles peuvent tout de même être utilisées ou si la rupture de la la chaîne du froid les a condamnés à être mises à la poubelle.
Le parquet de Paris a requis un procès en correctionnel contre trois policiers pour la mort d'Amadou Koumé lors de son arrestation à Paris en 2015. L'un des trois est accusé d'avoir pratiqué abusivement une clé d'étranglement. Il est mis en examen pour violence volontaire. La décision finale reviendra au juge d'instruction chargé du dossier. Dans un instant, l'espionnage de nos téléphones portables.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Emmanuel Macron a-t-il vraiment été espionné par une puissance étrangère comme 12 autres chefs d'État ? En France, en tout cas, le logiciel Pegasus, si l'on en croit les révélations d'un réseau de journalistes, s'est introduit dans les téléphones de plusieurs milliers de personnes. Le président de la République, une dizaine de membres du gouvernement, des politiques de tous bords, des journalistes, des diplomates, des militants des droits de l'homme. Pegasus est développé par une société israélienne baptisée NSO et ce logiciel, Bénédicte Tassard, existe depuis 10 ans.
Alors, NSO, ce sont les initiales des prénoms des trois fondateurs de cette start-up créée en 2010 au nord-est de Tel Aviv et qui met la main sur une technologie permettant de prendre le contrôle à distance des téléphones. Depuis, les trois quarts des 700 employés travaillent sur la recherche et le développement. Certains sont d'anciens militaires, dont des hackers de l'armée israélienne. Ils font profiter à l'entreprise de leur carnet d'adresses qui comprend tous les services de renseignement du monde. Les clients, 60 agences de renseignement militaires et policiers dans une quarantaine de pays. Le premier à avoir signé un contrat, c'est le Mexique. Initialement pour infiltrer le réseau narcotrafiquant, mais depuis, il est bien prouvé que des journalistes, des avocats mexicains ont été espionnés. Le logiciel Pegasus aurait également été repéré dans le téléphone des proches de Jamal Khashoggi. Vous savez, ce journaliste assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul. NSO précise que toute vente du logiciel est approuvée par le ministre israélien de la Défense et que Pegasus a sauvé la vie de milliers de personnes en aidant à déjouer des attaques terroristes.
Bénédicte Tassard. Pour aller plus loin, nous sommes avec Nicolas Arpagian, enseignant à l'école de guerre économique et auteur de la cybersécurité éditée aux presses universitaires de France. Bonjour monsieur Arpagian.
Bonjour.
Cet espionnage interroge évidemment chacun d'entre nous. C'est si facile de pirater un portable ?
Alors en fait, ce sont des outils qui sont aujourd'hui accessibles. Et d'ailleurs, là, on a parlé avec NSO des cibles gouvernementales, étatiques. Et évidemment, on voit d'ailleurs aujourd'hui accessibles sur le marché français des applications qui servent alors officiellement pour manière à géolocaliser le téléphone de votre enfant ou d'un adulte atteint d'une maladie dégénérative, un grand-parent par exemple. Et en fait, on s'aperçoit que manifestement, un certain nombre de nos concitoyens l'utilisent pour espionner un proche, un conjoint, voire un collaborateur. Donc le savoir-faire aussi de NSO dans ce cas-là, c'est la capacité à s'insérer dans les téléphones de ses dirigeants qui font effectivement l'objet d'un certain nombre de protections. Mmh. Et donc c'est là aussi leur performance au-delà de la technique pure d'interception des éléments présents dans le téléphone portable.
Donc vous voulez dire qu'ils arrivent à s'introduire dans un téléphone crypté ?
Alors le chiffrement n'a rien à voir là-dedans puisque en fait une fois que le chiffrement du téléphone va être souvent par exemple dans les applications comme Telegram, comme WhatsApp qui mettent en avant le fait que les communications sont chiffrées donc seraient protégées, oui elles le sont dans la communication entre l'émetteur et le destinataire. Mais à partir du moment où le destinataire affiche le message et grâce à la contamination de son téléphone, en fait le pirate va se comporter comme un utilisateur légitime du téléphone et donc aura accès au texte en clair. Il aura été chiffré pendant son transport, mais en l'occurrence, le pirate y aura accès au moment où il apparaît sur l'écran de l'utilisateur légitime du smartphone.
Mmh. Et ce logiciel Pegasus, il s'introduit comment dans nos téléphones ? Via une application, c'est ce que vous disiez ?
Alors, c'est là où il y a effectivement une expertise à part entière. Là, apparemment, jusqu'à présent, ils utilisaient... Alors, d'habitude, le mode d'infection courant, c'est par des messages, des SMS, des emails qui viennent infecter. C'est-à-dire que vous cliquez sur un lien, vous télécharger une pièce jointe qui aura l'apparence du sérieux, de la vérité, en tout cas d'un interlocuteur naturel, d'une administration, un commerçant, de manière à infecter le téléphone. Là où NSO franchit une étape, c'est que manifestement, ils investissaient le champ de ce qu'on appelle les zéro day, les zéro jours. Ce sont des failles qui peuvent concerner les systèmes de fonctionnement des téléphones, Apple ou Android, et qui n'ont pas été documentées. En clair, elles ne sont pas corrigées parce qu'elles n'ont pas encore été
portée à la connaissance des éditeurs de ces plateformes. Et donc, effectivement, elle constitue un point de faiblesse. Et c'est l'investissement dans l'expertise, le fait d'acheter sur le marché des failles 0D ou d'avoir des experts capables de les trouver dans l'imperfection oui. informatique que constituent les téléphones et leurs logiciels qui permettent d'exploiter ces points de faiblesse dans les téléphones.
Donc ils ont une longueur d'avance. Est-ce que chacun d'entre nous a les moyens de se rendre compte s'il fait l'objet d'un piratage ?
Alors la difficulté avec ces logiciels, quand j'évoquais tout à l'heure même ces logiciels entre très grosses guillemets grand public, puisque leur usage reste illégal dès lors que la personne qui serait ainsi observée le serait à son insu, évidemment en général deux caractéristiques. La première, c'est que cette application n'apparaît pas dans le menu des applications du téléphone, comme celles que vous avez délibérément installées et qui donc sont recensées, vous savez, dans votre téléphone, dans le menu des applications. Celle-ci n'apparaît pas, donc évidemment c'est une dissimulation. Deuxième caractéristique, elles sont souvent désactivable à distance. À partir du moment où la personne aurait suscité un doute ou vous alliez peut-être confier votre téléphone pour expertise, et c'est le cas d'un dirigeant, effectivement, il y a une possibilité de désactiver à distance de manière à rendre invisible l'intrusion préalable. Mmh. Ce qui est vrai, c'est que Amnesty International a proposé, si vous allez sur leur site, un outil technique d'examen, alors qui est intéressant parce que il permet à l'état des connaissances d'aujourd'hui de valider la présence ou pas. Alors certainement, il va falloir compter sur des réadaptations de la part des prestataires de services de manière à rester discret et ne pas être identifié par cette procédure. Mais dans le cas de NSO, il est peu vraisemblable que le très grand public soit concerné. Mmh. Au regard des coûts du public qu'il visait, c'est davantage des dirigeants politiques, économiques, mmh. diplomatiques ou scientifiques.
C'est au moins rassurant pour le grand public, c'est déjà ça. Merci beaucoup Nicolas Arpagian, enseignant à l'école de guerre économique. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. L'Allemagne panse lentement ses plaies. Une première aide d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros doit être débloquée aujourd'hui pour les sinistrés. À l'autre bout du monde, en Chine, de terribles inondations ont frappé la ville de Zhangzhou, qui compte 10 millions d'habitants, avec une scène d'horreur. Des passagers du métro agrippés aux poignets pendant que l'eau monte dans la rame, il y a au moins 16 morts. La province très peuplée du Henan a reçu en 3 jours presque l'équivalent d'une année de pluie. Pendant ce temps-là, l'ouest du Canada est en état d'urgence face aux incendies après la canicule inédite des dernières semaines. Les soldes doivent durer encore 6 jours, mais le premier bilan est déjà bradé. D'après l'Alliance du commerce, on est à moins 12% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Un mauvais chiffre qui vient s'ajouter à un premier semestre assez désastreux. Nerissa Emani, vous avez rencontré des commerçants dépité dans le quartier du Marais à Paris.
Oui, dans cette boutique, pas de place pour la nouvelle collection. Tous les vêtements sont encore en solde, car il faut déstocker. Mais problème, il n'y a pas un client à l'horizon.
Le bilan pour nous des soldes est catastrophique.
Pendant ces soldes, David, le gérant, a fait 70% de ventes en moins par rapport à 2019.
On a eu une petite affluence au début des soldes, mais rien d'extraordinaire. Parce que dans le Marais, nous, on a une clientèle essentiellement aussi de touristes.
Pas de touristes et des Parisiens en vacances. Résultat, Li Ming n'a vendu que 30% de son stock dans ses 6 boutiques au pris de gros efforts.
On a fait des remises plus importantes. Oui. On a fait jusqu'à moins 50, ce qui était rare. Anciennement, on faisait de 30 à moins 40%. Là, ça fait 2 ou 3 ans, on ne gagne rien.
En face, Patrick, vendeur de prêt-à-porter, a même abandonné le mot solde.
Je n'ai pas marqué solde, il n'y a jamais marqué solde. Il y a marqué prix fin de saison. Les soldes, ça ne veut plus rien dire. Elles sont mortes depuis 4-5 ans à cause des promotions qui sont toute l'année. On ne pourra pas revenir dessus, c'est mort.
Et c'est pourquoi Patrick fermera boutique pour ses congés sans même attendre la fin des soldes prévue le 27 juillet.
Reportage Nerissa Emani. À Tokyo, le softball a ouvert les Jeux Olympiques ce matin, 2 jours avant la cérémonie officielle, dans un silence de cathédrale. Des Jeux décidément atypiques pour les athlètes. Et le tennisman français Gaël Monfils se souviendra toute sa vie de sa lune de miel japonaise, Isabelle Langer.
Ah, c'est certain, Christelle. Il y a 4 jours, Gaël Monfils était à la noce, la sienne, effectivement, à Genève, dans son costume violet. Le numéro 1 du tennis français a épousé Elina Svitolina, l'Ukrainienne, 6e joueuse mondiale. Un mariage en petit comité, mais avec les potes de toujours, Tsonga, Gasquet, Simon, mais aussi Tony Parker et le chanteur M. Pokora. Sur la piste de danse, la Monf, comme souvent, ne s'est pas ménagée, faisant le show. À peine le temps de digérer les agapes, les tourtereaux se sont envolés pour Tokyo, où ils sont arrivés hier. La lune de miel attendra donc.
On était déjà préparé avec ma femme
à jouer très rapidement, on savait qu'on allait enchaîner.
Car pour rien au monde, Gaël Monfils ne voulait manquer le rendez-vous olympique, même sous Covid.
Au match olympique, bon, malheureusement, on ne peut pas voir tous les autres sports, mais c'est un partage de sports, de culture, on apprend beaucoup. Je trouve que voilà, le match olympique, c'était toujours pour se dépasser soi-même et pour son pays. Et ça m'a toujours parlé, donc c'est quelque chose, c'est une épreuve très forte pour moi.
Mais aussi pour sa femme, Elina, qui s'appelle désormais mon fils sur les réseaux sociaux, mais qui disputera bien ses JO sous la bannière ukrainienne.
Isabelle Langer, deux athlètes doivent déjà renoncer, une taekwondoïste chilienne et une skateboardeuse néerlandaise. Elles sont les premières sportives au Japon à avoir été testées positives. Elles sont asymptomatiques, mais c'est fini pour elles. Et en 2032, les Jeux d'été auront lieu à Brisbane, en Australie. Le suspense n'était absolument pas insoutenable, puisque la ville était la seule candidate. Le surf est une discipline olympique et du côté de Biscarrosse, dans les Landes, les apprentis surfeurs seront peut-être de futurs champions. Juliette Chénion, vous avez assisté à un cours.
Et avant d'aller dans l'eau, il faut s'entraîner sur le sable. Devant Mathieu, 8 élèves, à côté de leur planche, ils portent une combinaison et un trait violet de crème solaire sur chaque joue.
Les mains en face des épaules, je stabilise bien la board. Hop, allez, je me lève. Je garde un peu les mains pour être bien stable. Mais je me redresse pas trop non plus. Hein. Bon, on est bon là. On est prêt à déchirer le spot.
Une fois dans l'eau, c'est une autre histoire. Marion, 41 ans, prend ses premiers cours avec ses trois enfants.
On essaye d'apprendre la technique pour se lever. En fait, il faut que ça devienne un automatisme parce qu'au début, ça ne l'est pas forcément. Pourtant, je suis de nature un peu sportive, mais quand même, voilà. Au bout du deuxième et troisième cours, on s'est levé, on a fait des gentilles petites vagounettes dans la mousse, un petit peu surfé, quoi. Pour apprendre, il faut tomber et puis ça rafraîchit en plus.
Marion, bien rafraîchie. Hein. Des chutes, il y en a beaucoup au début et c'est normal d'après Mathieu.
On va se décaler là-bas.
C'est un sport assez ingrat, hein, le surf, ça met un peu de temps en général. Mais on s'amuse directement. Dès la première seconde, on les emmène à l'eau. Regardez, là, ils s'amusent comme des petits fous.
Les cours durent 1h30 et il faut compter pour cela 35 euros.
Et on boit bien le bouillon au passage. Merci Juliette Chénion.
RTL.
Présidentielle.
Le jour où j'ai dit oui.
À quelques mois de la prochaine élection, tous les candidats ne sont pas encore déclarés, loin s'en faut. La déclaration de candidature est décisive dans le lancement d'une campagne. Alors tous les mercredis de l'été, RTL vous emmène à la rencontre d'anciens candidats à la présidentielle pour vous raconter comment ils ont franchi cette étape. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, 5 fois candidat jusqu'à l'apothéose de 2002 et son accession au second tour, il a ouvert ses portes à Marie Mollet.
Oui, Jean-Marie Le Pen est un candidat à la présidentielle à temps plein, ou presque. 5 tentatives, pas une vocation, dit-il, plutôt un cheminement naturel. Assez tôt, il s'est senti taillé pour la fonction.
Je me suis toujours senti capable, comme d'autres, d'être président de la République et même sans doute meilleur, du moins je le pensais. Ça datait même de mon enfance. Quand il y avait des jeux, j'étais un petit chef de bande. J'avais une certaine facilité, un certain don de commandement, d'organisation, d'entraînement. Je ne me suis jamais senti dépassé par la fonction. Mais non, je ne me suis pas senti désigné par le ciel. Ça m'aurait peut-être aidé d'ailleurs à marcher, mais bon, j'ai marché sans ça. À travers les ronces, les buissons, les embuscades, les difficultés de la route, c'est la guerre, c'est le combat, c'est la lutte.
Une lutte débutée en mars 1974.
Française, Français.
Jean-Marie Le Pen est encore l'homme au bandeau, le pirate. Il se lance pour la première fois dans l'arène.
Si vous pensez qu'il faut changer de politique, si vous voulez un État fort et juste, alors votez Jean-Marie Le Pen, votez Salut Bibi.
Celui qui apparaît sur les écrans de télévision n'est pas un inconnu. Depuis près de 20 ans, déjà, les Français connaissent ce tribun, ce rhéteur. Ancien député poujadiste, il vient d'être catapulté à la tête du tout jeune Front National. Pour lui, en 1974, l'Élysée est intouchable, Jean-Marie Le Pen le sait parfaitement, mais il y voit là une formidable occasion de gagner en notoriété et d'attirer argent, militants et cadres.
La campagne présidentielle, ça n'intéresse pas seulement le vainqueur, ça permet des recrutements, des sélections, mobiliser des militants, vous y acquérez des relations, vous y acquérez de l'expérience, construire le mouvement, c'était pas évident, quand on part ex nihilo de rien, c'est un travail immense, mais dans le fond, qu'on accomplissait comme la respiration.
Pour sa première campagne, Jean-Marie Le Pen ne fera pas de miracle dans les urnes. 0,74% des voix. Qu'importe, le FN s'est fait une place dans le paysage politique et son leader n'a pas l'intention d'en rester là. Ses courses à l'Élysée, il les a partagées, imposées à sa famille sans jamais lui demander son avis. Au gré des campagnes, il ouvre en grand les portes de son appartement parisien à la presse, exalte ses racines bretonnes dans sa maison de la Trinité où il met en scène sa femme et ses filles.
À partir du moment où je suis le chef d'un parti politique, et je sais que ça va avoir des conséquences pour ma famille, pour mes enfants. Et en quelque sorte, c'est un destin collectif. Ces trois filles ont assumé le risque que leur père leur faisait courir, mais aussi l'honneur d'avoir pour père quelqu'un dont on parlait, qui était un peu une vedette aussi.
Est-ce que il y a des gens à ce moment-là qui essayent de vous décourager ?
Personne n'a osé.
Personne n'a osé, pas même ses ennemis. Qui aurait pu l'en dissuader ?
Vanitas, vanitatum, et omne vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité.
Une candidature à la présidentielle aussi ?
Toute action humaine, quelle qu'elle soit.
À 93 ans, Jean-Marie Le Pen n'est pas homme à exprimer de regrets. Sauf un, celui de ne pas avoir été candidat à la présidentielle encore plus tôt, dès l'élection de 1965.
Dans un instant, on change de décor et on marche à l'ombre.
RTL Midi.
Et on retrouve Peggy Broche pour la météo. Vous avez gardé vos lunettes de soleil en studio, vous êtes prévoyante.
Ben oui Christelle, écoutez, je suis tellement éblouie par ce beau soleil que mes lunettes ne me quittent plus. C'est du très beau temps pour tout le monde. Quelques bémols tout de même, toujours, hein, depuis ce matin. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de grisailles entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ça se dissipe et ça sera bien dégagé cet après-midi. Il restera peut-être très très localement quelques plaques, mais pas grand-chose. Deux, trois nuages également vont se former en montagne et pourraient donner une petite averse, notamment sur les Pyrénées, le Massif central, voire un coup de tonnerre sur les Alpes du Sud et la montagne Corse. Puis peut-être une petite ondée, mais alors vraiment trois gouttes vers la Picardie. Je vous signale, histoire de... Voilà, nuancé, parce que sinon, c'est du très beau temps et des températures qui sont encore très élevées. 26 au Havre, 27 à Nancy, 28 à Reims, 30 degrés à Paris, Nevers, 31 à Brest, ainsi qu'à Rennes, Grenoble et Ajaccio, 33 à Bordeaux et Montauban, ainsi qu'à Marseille, 34 degrés à Montpellier, j'ai même eu 36 degrés à Nîmes. Puis je vous rappelle qu'il y a toujours 4 départements en vigilance orange crue, les Ardennes, la Marne, l'Aisne et l'Oise.
Et demain, même programme torride ?
Oui, plein soleil, dès le matin, allez sur la majeure partie du pays, petit bémol encore. Avec ces entrées maritimes, vous savez, les nuages apportés par le vent marin sur la côte aquitaine, mais aussi en région PACA, ça va se dissiper comme aujourd'hui. Une petite averse possible dans l'après-midi sur le relief des Pyrénées. Mais c'est tout. Et sinon, il fera encore chaud avec des températures qui seront encore en hausse dans le sud-ouest. Jusqu'à 37 degrés à Toulouse, 36 à Auch et Nîmes, 35 à Cognac, 32 à Nantes, 31 à Grenoble, 30 à Paris, 29 à Strasbourg et 25 à Cherbourg.
Merci Peggy. Il est 13h sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Jusqu'à 14h, on va revenir tous ensemble sur le pass sanitaire et les nouvelles restrictions dans les lieux de loisirs, sur le masque en extérieur. Franchement, on ne sait plus très bien s'il faut le remettre ou pas. On peut parler aussi de ces téléphones portables piratés, dont potentiellement celui d'Emmanuel Macron. Et j'aimerais qu'on évoque un peu plus tard dans l'émission, si vous le souhaitez, mais vraiment, je compte sur vous, le drame des noyades de l'été. Chaque année, 1000 personnes perdent la vie dans notre pays. Il faut apprendre à nager aux enfants de moins de 6 ans. C'est une question vitale. Voilà, Xavier a fait le 32-10. Bonjour Xavier.
Bonjour Christelle, bonjour aux auditeurs.
Le pass sanitaire, ça vous défrise un peu ?
Oui, le pass sanitaire est une forme de ségrégation et la ségrégation a toujours entraîné des événements violents là où elle a été mise en place.
Bon, on va y revenir avec vous dans un instant. Le rappel des titres. Préparez vos justificatifs. Première étape aujourd'hui des nouvelles restrictions sanitaires. Le pass est obligatoire pour aller au cinéma, au musée ou pour faire du sport en intérieur. Le gouvernement veut toujours prendre de vitesse l'épidémie qui flambe. 18 000 contaminations en 24 heures. Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Jean Castex doit s'exprimer dans les prochaines minutes. Le Premier ministre devrait faire de la pédagogie car on s'y perd, notamment sur le port du masque en extérieur.
Certains départements comme la Charente-Maritime ou le Tarn-et-Garonne l'ont rétabli. À l'Assemblée nationale, 500 amendements ont déjà été déposés sur le projet de loi encadrant les nouvelles restrictions. Le rassemblement est la seule voie pour la victoire en vue de la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'affirme ce matin un communiqué du parti Les Républicains après une rencontre avec Xavier Bertrand. Ce dernier, qui n'est plus membre du parti, ne veut pas de primaire. Le dialogue se poursuivra durant l'été, dit le parti. De terribles inondations en Chine. Il y a au moins 16 morts dans la province du Henan. À Zhangzhou, des passagers du métro ont péri agrippés aux poignets. On a vu l'eau monter dans la rame. L'UNESCO retire le port de Liverpool en Angleterre de la liste du patrimoine mondial. Déclassement rarissime. Il dénonce un surdéveloppement d'aménagement qui lui fait perdre son authenticité.
Et les petites histoires olympiques. Jean-Michel Rascol sur RTL.
Jesse Owens n'aurait pas remporté 4 médailles d'or aux Jeux de 1936 à Berlin sans l'aide d'un concurrent nazi lors des qualifications du concours du saut en longueur. Luz Long était pourtant son plus grand rival. Il deviendra jusqu'à la fin de ses jours son ami. Jean-Michel Rascol.
La légende de Jesse Owens n'aurait pas eu le même éclat en 1936 sans la complicité d'un athlète nazi. Lors du concours de qualification du saut en longueur, l'Américain est perdu tout proche de l'élimination. L'ancien champion, Alain Blondel, feuillette pour nous l'une des plus belles pages de notre album olympique.
Après deux essais en qualification, on sait que les athlètes ont trois essais pour pouvoir se qualifier pour la finale, parce que c'est là que le titre est décerné. Et puis au bout de deux essais, Jesse Owens était toujours loin des limites de qualification de 7,15 m. Il s'en sortait pas, il avait deux essais mordus. Et puis c'est à ce moment-là que Lutz Long, son plus grand adversaire, qui était le favori de l'Allemagne nazie, Lutz Long, qui est allé le voir et qui lui a recommandé gentiment en disant « Écoute, faut peut-être que tu recules tes marques, parce que a priori, pour l'instant, ça correspond pas à ce que tu sais faire. »
Jesse s'exécute, se qualifie pour la finale, où il retrouve 48 heures plus tard son nouvel ami, cet Allemand porté par 100 000 spectateurs et Adolf Hitler.
C'est un concours assez fabuleux parce que pendant les 5 premiers essais, ils sont répartis la première place au fur et à mesure. À chaque fois que Long sautait, Owens était capable de sauter plus loin. Long arrivait à ressauter aussi un peu plus loin. Donc c'était vraiment, c'était plus du saut en longueur, c'était une partie de ping-pong et c'était à celui qui allait laisser tomber la balle le premier jusqu'à la conclusion avec un saut assez fabuleux de Jesse Owens. Pour remettre dans le contexte, on est en 1936, sur une piste en cendrée, il saute 8,06 m. C'est vraiment la magie des Jeux.
La première défaite d'Hitler. À Berlin, un noir de souche modeste contre la race aryenne. Tout se transforme en or. Et le Führer s'en étrangle de rage.
Ça n'a pas vraiment fait plaisir à Adolf Hitler. Son grand favori, celui qui représentait l'idéologie aryenne et nazie, était grand, blond, et il s'appelait Lutz Long. Il est défait par un noir américain. Il a refusé de serrer la main de Jesse Owens, qui n'a pas été surpris parce qu'il s'attendait vraiment à ce genre de signe de non-respect. Puis par contre, celui qui en a le plus souffert, c'est Lutz Long. Il a déçu tellement le Führer que il a fini dans la Wehrmacht et il a fini sa vie, malheureusement, sur le front de l'Est.
Jesse Owens, la perle noire aux 4 médailles d'or, évoquera son ami berlinois jusqu'à la fin de sa vie en 1980.
Récit Jean-Michel Rascol avec la mise en onde de Spencer Clairefeuille.